I'm turning today to Paul's first letter to the Corinthians, chapter 2 and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours ou de la sagesse. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et notre sujet ce matin sera le suivant. N'éclipsez jamais l'esprit. C'est là le résumé de ce chapitre qui est là devant nous. Nous allons aussi loin que possible de verset en verset ce matin pour considérer ce chapitre important. Et je reviendrai également sur certains versets pour voir leur richesse en détail. Et je commence avec ce premier verset. Paul a parlé de Dieu qui bouleverse et renverse tout l'ordre des choses et toute la société, de manière à ce que ceux qui sont élevés, ceux qui sont fiers, ceux qui sont hautains dans ce monde, ceux qui sont importants, seront aveuglés par rapport aux choses de l'Évangile. Et l'Évangile sera proclamé et reçu et cru dans le cœur de ceux qui sont plutôt humbles et insignifiants. Et Dieu va se réjouir. Il va renverser l'ordre de la société dans la proclamation de sa vérité pour que la gloire lui soit rendue et lui revienne entièrement. Et c'est évident, c'est démontré que l'Évangile est prêché, que la conversion est donnée, non pas en conséquence de l'éloquence et de la capacité des hommes, mais par la puissance de Dieu. Mais bien sûr, nous prêchons, nous témoignons aussi bien que possible, de manière aussi efficace que possible, mais nous n'éclipsons jamais l'esprit, nous ne rajoutons jamais aux méthodes de Dieu de la prédication, de la prière. Nous ne pensons jamais « Oh, ces choses, ces méthodes ne sont pas efficaces, l'Esprit Saint est faible, nous avons besoin d'embellir ces choses et de rajouter des choses. » Non, n'éclipsez jamais l'esprit, parce que alors l'esprit se retire. Et toutes les méthodes humaines du monde peut-être attirent les foules parfois, peut-être il semble que de grandes églises se forment, mais l'Écriture nous enseigne qu'il est très probable que ceci soit de la paille, du foin et du bois, sans fruit, parce que le Saint-Esprit se retire. Ainsi ce chapitre souligne le premier chapitre. Et l'apôtre Paul à présent va plus dans les détails. Et il parle de lui-même également au verset 1 « Pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis point venu avec la pompe du discours. » En grec, ceci indique un discours supérieur. Oui, le terme pompe ou excellence, c'est juste et c'est bon d'être efficace, d'être clair autant que possible dans la prédication. Mais ce terme pompe ou excellence, supériorité, à l'esprit une capacité oratoire, une éloquence particulière. Je ne suis point venu avec éloquence. Ce n'est pas une traduction tout à fait juste, mais c'est un peu le sens de l'original. Je ne suis point venu avec la pompe du discours, peu importe ce que ceci peut impliquer, la philosophie humaine, le raisonnement humain. Non, il est venu avec un raisonnement spirituel et une argumentation spirituelle. Il n'a pas adopté des techniques humaines pour impressionner, pour enseigner ces choses qui sont populaires dans certains cercles évangéliques. Certaines personnes utilisent toutes sortes de méthodes en étant émotionnelles, puis en parlant fort, en criant, et en particulier dans les cercles charismatiques. Ceux qui montent sur la scène, qui descendent, et qui bouge beaucoup, il doit y avoir de l'activité, de l'action. Et ce qui se fait aujourd'hui est tellement loin, aussi loin que possible, de ce que nous voyons dans l'Écriture. Dans le temps du Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ utilisait les coutumes juives dans la synagogue. Il s'asseyait pour prêcher. Tous ne s'asseyaient pas au jour de la Pentecôte, par exemple, pendant la première prédication de l'Église. L'apôtre Pierre s'est levé. C'était une chose extraordinaire. Que les 11 apôtres soient là. Et vous savez que le 12e s'est perdu, mais les 11 apôtres qui restaient là, qui auparavant étaient terrifiés parce qu'ils étaient associés à Christ, ils avaient peur pour leur vie. Et à présent, pendant la première prédication à Jérusalem au jour de la Pentecôte, ils se sont tous tenus debout ensemble. et ils étaient prêts à témoigner pour Jésus-Christ ouvertement. L'apôtre Pierre s'est levé et il a prêché, il a déclaré l'évangile. Mais vous ne voyez nulle part dans la parole de Dieu que quelqu'un saute sur la scène ou bouge beaucoup. L'apôtre Pierre ne faisait pas des grands gestes qui pourraient suggérer ceci. Mais l'apôtre Paul dit « Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » En grec, ce terme traduit par « proposer » ou « déterminer », ça a l'idée d'un choix, d'un jugement, d'une décision. C'est un terme difficile à traduire, mais c'est comme « déterminer ». Si vous comprenez ce terme, j'ai réfléchi et j'ai pris une décision. C'est là ce que cela veut dire. En grec, c'est « j'ai choisi de ne pas ». J'ai décidé de ne pas savoir autre chose, de ne pas me concentrer sur autre chose. Parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ceci a deux significations dans ce verset. Et il y a peu de doute que l'apôtre Paul a à l'esprit ces deux significations. Tout d'abord, quand il a prêché l'évangile et il prêchait pour les âmes, il n'a jamais mis de côté Christ crucifié, c'était là le centre même de l'évangile, de sa prédication, toujours Christ crucifié. Mais il y a quelque chose de plus ici. Je ne me suis pas proposé de savoir autre chose, j'ai décidé de n'avoir rien d'autre parmi vous que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, en d'autres termes, si je suis venu parmi vous, peu importe ce que je faisais dans mon travail, quand je faisais des tentes ou quand j'étais persécuté, ou quand je devais me défendre, quand j'étais arrêté, lié, quand j'étais dans la crainte d'être reçu de manière violente par la foule, quand je parlais, toujours, j'ai fait ce que j'ai fait avec quelque chose à l'esprit, une seule chose à mon esprit. Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il est allé à la croix du calvaire pour moi, pensait Paul. Il a souffert, il est mort pour moi. Il a payé le prix pour ma rédemption et je vais faire tout ce que je peux pour lui. Je vais tout accepter, toute la difficulté pour lui. Et vous voyez le sens de ce passage. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, je ne pensais pas à moi-même. Ce que les gens allaient penser de moi, s'ils allaient aimer ma prédication, je ne me mettais pas en avant pour utiliser différentes méthodes pour que les gens pensent que j'étais une grande personnalité. Non, je pensais à une chose. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. À la lumière de tout ce qu'il a fait pour moi, je fais ceci pour lui, pas pour moi. Je fais ceci pour sa gloire, pour sa cause, pour son Église. Et nous pouvons prendre ceci également pour nous dans notre vie quotidienne. Est-ce que si vous devez vous excuser devant votre femme, devant votre mari, ou est-ce que vous avez fait quelque chose de mal et vous devez vous repentir? C'est difficile de s'humilier, mais l'apôtre Paul dit « Je choisis dans ma vie de n'avoir qu'une chose à l'esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, s'il est là à votre esprit, ce qu'il a fait pour vous, alors vous allez faire ce qui est juste devant lui, vous allez l'honorer et vous faites cette chose qui est difficile. Si vous devez vous humilier ou si vous n'avez pas témoigné à quelqu'un qui est proche de vous et que vous aviez l'occasion de témoigner pour Christ, et vous, vous pensez à ce que vous allez manger à midi ou ce que vous allez acheter dans les magasins? Non. Ce qui vous vient à l'esprit, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Vous allez faire cette chose qui est difficile à faire pour lui. Et c'est également dans ce sens-là que nous lisons ces paroles de l'apôtre Paul et ceci est précieux pour nous. Verset 2. Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ceci parle de Christ qui est le centre de sa prédication et le centre de son attitude en toutes choses, dans tout ce qu'il fait. Il le fait pour Christ, dans la gratitude par rapport à lui, dans l'obéissance. Au verset 3, c'est comme un premier point si vous voulez. « J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. » Quelle était la faiblesse de l'apôtre Paul? Peut-être que le prédicateur va parler de la maladie de Paul. Est-ce qu'il avait des problèmes de vue? Son infirmité physique? Probablement, il n'a pas ceci à l'esprit du tout, parce que ce n'est pas le contexte de ce passage. J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse. Quelle faiblesse? Qu'est-ce qu'il a à l'esprit dans le contexte de ce passage? C'est son humilité, voyez-vous, sa douceur. Il a dit que Dieu n'utilise pas les grands de ce monde, ceux qui sont de descendance royale, ceux qui sont connus, ceux qui ont accompli de grandes choses, qui sont célèbres. « J'ai été moi-même auprès de vous, dit-il, dans la faiblesse. Je ne me suis pas présenté moi-même comme quelqu'un qui était important, comme une grande personnalité. Non, j'étais habillé simplement. » L'apôtre Paul, peut-être qu'il était courbé, peut-être qu'il marchait mal, mais ce n'était pas le genre de personne que vous admiriez pour son apparence. Il était persécuté, il était haï par la communauté juive en particulier. Ainsi, j'étais auprès de vous dans la faiblesse. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'y avait rien pour le recommander. Il n'y avait rien pour me mettre en avant. J'étais auprès de vous dans la faiblesse, et à cause de cette faiblesse, dans la crainte et dans le tremblement, c'est la Corinthe. C'est une ville grecque. C'est l'endroit où ils admirent la sagesse humaine et la capacité oratoire, les philosophes, l'endroit où vous devez être connu par des gens importants et être admiré pour pouvoir parler. Et moi, je viens parmi vous, comme un juif prédicateur converti à Christ, qui représente un ensemble de disciples, l'Église, qui est méprisée et si loin de ce que vous croyez, de ce qui est important pour vous. Ainsi, il est dans la crainte, dans le tremblement. Dans tant d'endroits, il a été violemment attaqué. Et il était faible dans son corps. Et il tremblait. Au verset 4, « Et ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine ou des discours qui attirent dans la sagesse humaine. » Même un prédicateur sincère peut tomber dans ceci en pensant vouloir gagner à Christ, en passant peut-être tout un message en parlant de la joie, des bienfaits dans la vie chrétienne et le bonheur de la vie chrétienne et la communion de Dieu et la famille de Dieu, tous les bienfaits de la communion fraternelle, et en essayant d'amener les gens à Christ sur cette base-là. Oh, ceci, c'est légitime de mentionner les bienfaits de la vie chrétienne, mais il doit y avoir un équilibre. Nous devons mentionner le besoin de la repentance, de la foi en Christ, de venir à lui humblement comme un pécheur qui dépend uniquement de lui pour le salut, pour la rédemption. Nous ne pouvons pas simplement dire « Oh, mettez votre main dans la main de Jésus-Christ et votre vie sera pleine de bonheur à partir de ce moment-là. » Si en tant que prédicateur sincère, je suis tombé dans ce piège d'utiliser des discours de la sagesse humaine en essayant d'attirer les gens en termes humains, pour le bonheur humain, en touchant l'émotion, les désirs de la chair uniquement. L'apôtre Paul ne fait pas ceci. Sa prédication est équilibrée. Il mentionne la gloire. Il mentionne également le besoin de l'humiliation devant Dieu et de la repentance sincère, authentique, et de dépendre de Christ seul et de crier à lui pour sa transformation, pour sa conversion. Ma parole et ma prédication n'ont point consisté dans des discours de la sagesse humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est clair dans ce contexte, et j'espère vous le prouver, que ce qu'il veut dire par là, c'est la puissance de Dieu qui œuvre dans les cœurs, qui transforme les vies, dans la régénération, en amenant la vie spirituelle dans une personne, en réveillant l'âme et en établissant la communion avec lui, de manière à ce que la personne peut prier, peut crier à Dieu. Il donne la compréhension de la parole de Dieu et une onction qui vous aide à comprendre la vérité de Dieu. Une démonstration d'esprit et de puissance. Les gens ont été transformés réellement, mais de nos jours, en particulier parmi les charismatiques, la tendance est de dire que le terme puissance ici signifie des miracles. Une démonstration d'esprit et de puissance, de miracles. Et certains charismatiques disent qu'il faut des miracles pour impressionner les incroyants, pour convaincre les incroyants, pour qu'ils se tournent vers Christ. Nous voulons les miracles du temps des apôtres. C'était des choses qui ont été données par Dieu pour authentifier les apôtres, mais nous voulons ces choses de nos jours, parce que l'apôtre Paul dit ici, quand il a prêché l'évangile, c'était l'évangile et les miracles. Il y avait la parole et les miracles de puissance. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'apôtre Paul utilise le terme « puissance » plus pour décrire l'œuvre intérieure, l'œuvre secrète de la conversion dans les cœurs que nous ne voyons pas et qui se manifeste dans la vie nouvelle. Il utilise plus ce terme « puissance » dans ce contexte-là dans le Nouveau Testament que pour décrire des signes et des miracles. Il utilise ce terme ainsi également ailleurs, mais plus dans ce contexte de l'œuvre intérieure. Nous pourrions lire d'autres passages de l'Écriture dans toutes les épîtres de Paul, mais nous nous contenterons d'un texte dans Éphésiens. Dans Éphésiens 1, 19, par exemple, « Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force ?» Et il parle de la conversion de l'âme, il compare ceci à la résurrection de Christ et la résurrection morale des croyants dans la sanctification. Il compare ceci à la résurrection de Christ, une comparaison au verset 18 « qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous avez été appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. » Il parle sans aucun doute de la puissance de l'œuvre intérieure de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul utilise la plupart du temps ce terme « puissance » dans le Nouveau Testament. J'aimerais lire Éphésiens chapitre 3, verset 16. « Afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit. » Ce terme « puissance », c'est le même terme que dans notre texte. Il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est une œuvre de Dieu intérieure. Et c'est pareil au verset 20 de ce chapitre. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Cette puissance qui agit en nous, l'apôtre Paul utilise ce terme « puissance » bien plus dans le Nouveau Testament, en relation avec l'œuvre intérieure qu'il ne le fait quand il parle de miracles. Ceci est beaucoup plus rare. Et nous en revenons à 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 4, dans une démonstration d'esprit et de puissance, dans le cœur, en transformant les cœurs, en convertissant les hommes et les femmes, au verset 5, afin que votre foi soit fondée, que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, que votre foi n'ait pas comme fondement la sagesse des hommes, l'éloquence des hommes, mais plutôt la puissance de Dieu qui œuvre en vous. Quand vous entendez la parole de Dieu, l'apôtre Paul souligne ceci, c'est important d'honorer l'œuvre de l'Esprit et de ne pas l'éclipser par des techniques et des méthodes humaines. Au verset 6, et voici un verset que nous devons expliquer. « Or nous prêchons la sagesse parmi les parfaits. » En lisant ceci, je pensais dans le passé que l'apôtre Paul veut dire ici que nous parlons simplement aux incroyants, mais nous parlons de sagesse spirituelle parmi ceux qui sont mûrs dans la foi. Ce que ce terme « parfait » veut dire « complet, sauvé, équipé, ils ont une compréhension spirituelle, ils sont sauvés. » Parmi eux, nous parlons de toute la sagesse de Dieu. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Nous devons lire ce verset avec plus d'attention. Or, nous prêchons la sagesse parmi ceux qui sont sauvés, les parfaits. Ce qu'il veut dire, c'est ceci. Nous prêchons la sagesse aux yeux de ceux qui sont sauvés. Et je vais expliquer ceci. L'Évangile, lui-même, c'est la sagesse. Nous ne parlons pas simplement à ceux qui sont perdus et nous pouvons parler de choses plus compliquées à ceux qui sont sauvés. Non, pour ceux qui sont perdus, nous parlons de la sagesse de Dieu, l'Évangile. C'est bien plus plein de sagesse que la sagesse de l'homme. L'apôtre Paul a dit ceci dans le chapitre précédent. C'est la sagesse de Dieu dans l'Évangile. Et nous prêchons la sagesse de Dieu à ceux qui sont sauvés. Ce qu'il dit ici, c'est aux yeux de ceux qui sont sauvés, ils savent que c'est là la sagesse de Dieu, nous prêchons l'Évangile. Les inconvertis peuvent penser que c'est une folie, mais ceux qui sont sauvés savent que tout ceci, c'est la sagesse de Dieu. Nous lisons à nouveau ce verset. Or nous prêchons la sagesse parmi ou aux yeux de des parfaits, des croyants. Les croyants savent que c'est là la sagesse de Dieu. L'Évangile résout le problème de l'homme, sa séparation de Dieu. Un Dieu parfait, comment est-ce qu'il peut pardonner à un homme plein de péchés? Le péché doit être éliminé par la condamnation et la souffrance. Mais dans son amour si immense, dans sa miséricorde, dans son amour incomparé, Dieu vient lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Et il a pris cette souffrance sur lui-même. C'est là la sagesse de Dieu. Ainsi, Dieu peut être juste. Et il condamne le péché. Et il justifie les pécheurs. Il est le sauveur des pécheurs. C'est là la chose la plus pleine de sagesse que l'on peut concevoir. Et les croyants le savent. Or, nous prêchons la sagesse quand nous prêchons l'Évangile. Aux yeux de ceux qui sont parfaits, qui sont sauvés. Une sagesse non de ce monde, la sagesse de ce monde, ceci, c'est tout par rapport à la chair, par rapport à la grandeur de l'homme. L'homme qui veut faire tout ce qu'il veut, ses plaisirs, son divertissement, la satisfaction de la convoitise de la chair, ce que les gens pensent de nous, notre réputation et notre accomplissement, ce que nous pouvons posséder, les biens de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est la célébrité et la richesse. La sagesse de ce monde, c'est la puissance, le pouvoir, mais la sagesse de Dieu, c'est être revêtu de la justice de Christ, recevoir un cœur nouveau, une vie nouvelle, et être sur le chemin vers la gloire éternelle, avoir la communion avec Dieu. Et il dirige notre vie, il nous donne la compréhension, et nous l'étudions, nous nous réjouissons en lui. La sagesse de Dieu, il nous donne sa puissance, ceci est si différent. N'éclipsez jamais l'esprit. Au verset 6, même à côté de ce que l'apôtre Paul veut dire, quel contraste entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu parmi les parfaits, dit l'apôtre Paul. Et au verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, une sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Quel verset extraordinaire que celui-ci. Nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère. Mystère, c'est là un terme grec. Presque le même terme dans le grec original. C'est un secret, quelque chose qui est caché, qui n'est pas révélé. Pourquoi est-ce que la sagesse de Dieu est cachée? Elle est cachée à cause de la chute de l'homme et du péché de l'homme. Et Dieu a prononcé une malédiction sur l'homme, un jugement sur l'homme. L'homme est limité. Ainsi, l'homme, même s'il est brillant, intelligent, il ne peut pas comprendre le chemin du salut, la sagesse de Dieu. Il ne veut pas la comprendre. Il y a deux aspects. Il ne veut pas comprendre la sagesse de Dieu. Il a plein de préjugés contre Dieu. Il veut lui-même les choses de ce monde. Et cependant, il ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu à cause de son péché, qui est un obstacle. Ainsi, la sagesse de Dieu est un mystère pour l'être humain. Et Dieu œuvre par l'Esprit. Mais il y a également d'autres raisons pour lesquelles la sagesse de Dieu ou l'Évangile, le chemin du salut, est appelé un mystère. C'est un mystère de nos jours. Pour les inconvertis, c'est un mystère parce que les gens ne voient pas ceci comme une réalité. Ce n'est pas réel pour eux. Ce n'est pas quelque chose qui a de la substance, qui peut être touché, qui peut être possédé, touché, qui peut être vu, observé. Ce n'est pas comme si vous étudiez des plantes ou des choses matérielles, des animaux ou différentes substances. La botanique, la zoologie, la physique, la chimie, ce sont des études de choses substantielles. Mais ce n'est pas ainsi. L'Évangile est différent. Ce n'est pas une étude d'événements, de la vie de certains hommes. Les gens aiment beaucoup les biographies. C'est quelque chose d'invisible. L'Évangile, le mystère de Dieu. Ceci parle du pardon. Ceci parle du Dieu invisible, de sa sainteté. Ceci parle de la relation spirituelle avec Dieu et du besoin d'être transformé en nous de la vie éternelle. Ainsi, les gens ne voient pas ceci comme étant réel parce que ce n'est pas quelque chose qui a une substance. C'est le mystère de l'Évangile. Ce n'est pas ce que ce monde pourrait imaginer. Toute la sagesse de ce monde, toute l'intelligence de ce monde et la connaissance de ce monde n'auraient pas pu penser à l'Évangile. Comment être sauvé par la mort expiatoire de Christ qui est venu comme un substitut, que nous sommes sauvés par Dieu. C'est un don gratuit qui nous est donné, que nous ne pouvons pas mériter. L'être humain n'aurait jamais pu imaginer ceci parce que son orgueil l'empêche de penser à ceci. L'homme pense qu'il peut faire quelque chose pour mériter la faveur de Dieu. Tout le monde entier pense ainsi. Mais l'Évangile est un secret que l'homme orgueilleux et fier ne peut pas comprendre parce qu'il pense qu'il peut tout faire par lui-même. C'est un mystère également et un secret d'une autre manière. Parce que ce n'était pas enseigné explicitement dans l'Ancien Testament. L'Évangile est dans l'Ancien Testament, oui, mais ce n'est pas exprimé aussi clairement que dans le Nouveau Testament. C'est voilé jusqu'au jour où Christ est venu, uniquement quand Christ est venu, alors toute la gloire de la substitution de Christ, de l'expiation de Christ, va être révélée. Ceci est décrit dans Ésaïe 53. Mais toute la lumière de l'Évangile resplendit quand Christ est venu. Mais c'était un secret jusqu'à ce moment-là. Et c'est également un secret parce que le monde entier, les non-juifs, vont être inclus dans l'Église. L'apôtre Paul dit ceci tant de fois. Toute l'Église qui inclut les juifs sauvés et les non-juifs sauvés. L'apôtre Paul est conscient ici qu'il a un privilège extraordinaire. Il ressent qu'il est l'un des premiers prédicateurs à introduire ce mystère au monde. Nous prêchons la sagesse de Dieu en un mystère, sagesse cachée que Dieu avait destinée avant les siècles pour notre gloire. Est-ce que notre gloire est plus grande que pour ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament? Non. Mais nous avons une gloire qu'ils n'avaient pas, un privilège, si vous voulez, et une mission, un appel que eux ne connaissaient pas. Nous avons toute la lumière de l'Évangile. Quel privilège, dit l'apôtre Paul, quel privilège est-ce que j'ai? Quel appel que le mien de prêcher l'Évangile? Est-ce que quelque chose peut être comparé à ceci, à mon esprit? La tâche qui m'a été donnée, c'est ainsi que nous devrions également penser. Quand nous travaillons jour après jour, je gagne de l'argent pour ma famille, et j'enseigne mes enfants, j'éduque mes enfants, je fais toutes sortes de choses importantes, je prie pour que Dieu m'aide dans toutes ces choses, mais le plus grand de mes privilèges et le plus grand de mes appels, c'est le secret que Dieu m'a donné, l'Évangile, et de témoigner de l'Évangile. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle au verset 7. Chers amis, le temps est passé. Il y a de grandes richesses là, dans ce chapitre. Que Dieu bénisse ce chapitre pour nous et qu'il nous aide à ne jamais éclipser le Saint-Esprit.